Chat perché, par Richard Keller. Chapitre 10. La pluie s'invita sur les Alpes dès le samedi matin. Le ciel s'obscurcit. Des trombes d'eau s'abattirent sur la ville. Les chats de Mélanie restèrent cachés dans les couloirs et les caves des vieilles masures. Malgré le fastidieux travail de préparation des cartons pour leur déménagement prévu dans 2 semaines, les époux Sagol avaient accepté l'invitation de l'inspecteur principal Jean-Pierre Boucher pour le lendemain. Ce serait l'occasion de lui faire leurs adieux. Les deux hommes s'étaient rencontrés dans le cadre de leur activité professionnelle et, malgré la rivalité existante entre la police et la gendarmerie, ils avaient rapidement sympathisé. Léo n'aimait pas conduire sous la pluie. Pourtant, elle était la bienvenue. Il pestait contre les éléments. Il n'était pas tombé une goutte d'eau depuis fin juin. Dans certaines localités, les autorités mirent en place des restrictions sur l'utilisation du précieux liquide. En conducteur prévoyant, il préféra emprunter la route. L'autoroute ne l'inspirait pas beaucoup. Il dut suivre plusieurs déviations suite au débordement des rivières. C'est ainsi, si la première grosse averse ne pénétrait pas le sol asséché, il s'ensuivait des inondations catastrophiques. L'évolution du monde rural et villageois vers une société où tout était calibré amenait à de tels résultats. La rentabilité et la performance régissaient la nature, comme si l'homme pouvait tout maîtriser. Les réactions sur toute la planète indiquaient le contraire, mais l'avidité et la cupidité continuaient leur œuvre destructrice. Jean-Pierre Boucher reçut ses amis dans son appartement situé sur les quais, dans un immeuble bourgeois. Il n'avait pas précisé qu'il serait accompagné. Il présenta sa compagne. Maryse, petite et mince, qui se distinguait par son joli minois parsemé de taches de rousseur. Elle paraissait dynamique et tout en fraîcheur. Le courant passa immédiatement avec les Sagol. À 40 ans, elle en paraissait 5 de moins. C'était lié à son allure juvénile et elle savait en jouer. L'inspecteur principal Boucher fit sa rencontre lors d'une réunion d'une commission de sécurité au Conseil général. Elle occupait la fonction d'attaché d'administration. Après la réunion, il l'invita à boire un verre et elle accepta. De fil en aiguille, ils se virent plus souvent. Soucieux de leur indépendance réciproque, ils ne vivaient pas ensemble, mais prenaient plaisir à se retrouver pour un week-end ou une nuit. Maryse vécut plusieurs années dans l'océan Indien, la Réunion, puis Madagascar et Maurice. Ces îles n'avaient plus de secret pour elle. Elle décida de leur faire un repas, à base de poissons et d'épices de ces lointaines contrées. Juliette et Léo, aux anges, se réjouissaient en humant l'odeur des condiments. Ils adoraient la cuisine exotique. Un petit punch en apéro, Sagol se lâcha. Il pouvait boire, sa moitié conduirait au retour. Bien entendu, la conversation déborda un peu sur les activités des deux hommes, pendant que les femmes parlaient de sujets plus féminins. « Alors Jean-Pierre, quoi de neuf chez vous ? Quelques affaires tordues, rien que de la routine, des voleurs de poules. L'été, ce sont surtout les voitures qui disparaissent. Et toi? Je travaille sur un dossier impossible. Tu connais Gilles, mon adjoint? Oui, bien sûr. Nous travaillons sur le décès d'une vieille dame étranglée par un assassin qui a décoré l'appartement de la victime avec des chats empaillés. 32 pour être précis. Cet individu est un grand ami des bêtes. Non, c'est la morte qui s'occupait des chats du quartier. La voilà l'explication, mon Léo. Je suis d'accord, Jean-Pierre, mais la suite s'annonce plus complexe. Ah oui? Figure-toi que dans la gueule de chaque bestiole se nichait un grain de riz gravé, avec sur une face un mot et sur l'autre un animal du zodiaque chinois. Tu deviens passionnant, continue. Gilles a reconstitué les deux phrases suivantes. Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, mais les petits pas qui y mènent. Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. Ne m'en dis pas plus, ce sont deux pensées de Confucius. Comment tu sais ça, toi? J'adore la littérature chinoise et les pensées de Confucius font partie de leur patrimoine. Elles expliquent bien l'état d'esprit et la culture du peuple chinois. Bravo, mon ami, j'aurais dû t'appeler. Avez-vous des pistes et des suspects? Pas le moindre. Il y a des ramifications un peu partout avec deux endroits qui m'interpellent. Lesquels? La région de Bordeaux, avec un crime similaire, l'achat de couronnes mortuaires et un coup de fil inexploitable depuis une cabine. et le second endroit. Une communication depuis une cabine grenobloise. Aucun témoin n'a reconnu la voix. Eh bien, pour ta dernière enquête, tu fais fort. As-tu mené tes investigations dans la communauté asiatique? Cela fait partie de notre boulot de la semaine prochaine. Tout est tordu, même les fréquentations de la vieille dame. Ça va du barbouze à la châtelaine, en passant par un directeur de prison, une directrice de SPA, des amis italiens, et j'en oublie. Que disent les vétérinaires et les taxidermistes? J'ai volontairement occulté les vétérinaires. J'en auditionnerai si l'emploi du temps le permet. Nous avons vu deux taxidermistes, ils affirment que c'est un job d'amateur. Maryse, tout sourire, invita les deux hommes à la rejoindre à la salle à manger. Juliette les attendait. Le repas fut délicieux. La compagne de Jean-Pierre Boucher s'était surpassée. Elle eut droit aux félicitations appuyées de chaque convive. 18 heures sonnaient à l'horloge de l'hôtel de ville lorsque les époux prirent congé de leur hôte. Jean-Pierre Boucher embrassa Juliette et, avec une poignée de main vigoureuse, encouragea Léo à lire Confucius tous les soirs avant de s'endormir. Sagol, de fort bonne humeur, lui répondit « Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, mais les petits pas qui y mènent. » Il fallait une belle amitié pour qu'il accepte la raillerie et joue aussi facilement le jeu. Juliette prit le volant. 5 minutes plus tard, son Léo ronflait jusqu'à couvrir le bruit du moteur diesel. Elle sourit, car elle savait que son homme venait de passer une très bonne journée. Sagol commença la semaine avec gaieté. Ce jour, la zone pluvieuse s'était déplacée vers l'Italie, laissant la place à un temps plus agréable. Cependant, il faisait frais. L'été et ses grosses chaleurs venaient de rendre l'âme. Gilles profita du mauvais temps de la fin de semaine pour fréquenter les salles obscures. Il regarda 3 films dans son week-end, dans un cinéma d'art et d'essai. C'était la semaine du Brésil, avec ses incontournables clichés de favela, mais aussi des petits bijoux de tendresse et de réflexion. Le café matinal leur permit de faire le point sur les actions des jours à venir. Le chef demanda la comparaison des grains de riz, des affaires Chauvier et Pralon. Les spécialistes du ministère de l'Agriculture planchaient sur le sujet. Ils séjournaient désormais entre leurs mains expertes. Un petit miracle se produisit. Le lundi soir, ils s'apprêtaient à mettre fin à leur travail quotidien lorsque le téléphone sonna. Au bout du fil, le professeur Delorme de l'Institut national de recherche agronomique. Son service venait de terminer l'analyse du riz. Gilles brancha l'amplificateur afin de leur permettre d'entendre à deux la conversation. Les conclusions du professeur étaient surprenantes. Dans les deux cas, il s'agissait d'espèces identiques provenant probablement de la même récolte. Ils se doutaient de la similitude. L'expertise confirmait leur pressentiment. La surprise fut totale lorsque l'homme de l'art précisa que les grains de riz ne pouvaient provenir que d'un seul endroit au monde. L'espèce qui les occupait poussait uniquement dans la région de Xi'an en Chine. La production annuelle, peu conséquente, se situait autour de 3 ou 4 tonnes. Gilles insista auprès du scientifique. Existait-il une possibilité d'erreur? Il se vexa et répondit sèchement que l'analyse de la structure moléculaire ne permettait aucun doute. Il partit dans des considérations techniques qui laissèrent quoi le brave gendarme. Il s'excusa d'avoir mis en cause la fiabilité de son service. L'incident était clos. Le spécialiste ajouta que ce riz était introuvable dans l'Hexagone. Il n'était pas exporté de sa zone de production, seuls des services de recherche pouvaient en posséder pour des expériences de type transgénique. Delorme termina la communication en précisant qu'il faisait suivre son rapport. Gilles le remercia de sa diligence et de son appel. Décidément, dans la fin tragique de Mélanie, l'enquête allait de surprise en surprise. Quelle serait la prochaine? Se demandaient les gendarmes. Dites-moi, Gilles, la piste asiatique se confirme. Oui, d'autant plus que si mes souvenirs sont exacts, le regard des 32 chats convergeait vers un point du globe terrestre, Xi'an. Élémentaire, mon cher Watson. Par prudence, n'en tirons pas de conclusion hâtive. Nous ajoutons une piste supplémentaire en direction de la communauté chinoise. Chef, je crois que la priorité pour demain sera l'investigation dans cette communauté. De toute évidence, mon cher ami, la tâche ne s'annonce pas simple. L'Asiatique ne se confie pas facilement. Je suis moins catégorique. Il faut une approche différente, ce qui n'est pas pour me déplaire. Eh bien, je sais pouvoir compter sur votre culture orientale. Mais pour ce soir, cela suffira. Nous plions bagage. À demain. À demain, Gilles. À l'heure où blanchira la campagne. Entendu. La rosée du matin n'arrêtera pas le pèlerin. Les deux compères se retrouvèrent dès 7 heures, le matin du mardi 16 septembre. Ils élaborèrent leur plan de travail de la journée. Sagol irait voir du côté des restaurants chinois qui sont pour la plupart la propriété de Vietnamiens, car ils n'emploient que du personnel d'origine asiatique. Certains patrons rencontrèrent Sagol dans le cadre d'autres enquêtes. Ce dernier avait prévu 4 visites. Il commencerait par la Perle de Jade. Il connaissait bien Pho Nguyen, le gérant. Il lui téléphonerait avant de se rendre sur place, car le restaurant se trouvait à la périphérie de la ville. De plus, il se doutait depuis longtemps que l'établissement abritait des joueurs clandestins. Comme il ne venait pas pour ce motif et qu'il n'avait aucun désir de perturber l'ordre des choses, il préférait s'annoncer, car il pourrait trouver des joueurs attardés et le patron risquerait de payer chèrement cette intrusion de la maréchaussée dans les locaux du supposé tripot. Lorsqu'il eut Pho Nguyen au bout du fil, il perçut de l'embarras chez son interlocuteur. Il le rassura en lui disant que cela n'avait rien à voir avec lui ou l'activité de son établissement. Il faisait tout naturellement appel aux compétences d'un ami. Pho ne parut pas plus rassuré pour autant. Avec sa petite voix caractéristique, il tergiversait. Il comprit vite que la venue du gendarme ne pouvait être reportée. Mieux valait coopérer. Sagol gara son véhicule sur le parking. 2 Mercedes noires y stationnaient. Les propriétaires de ces automobiles ne doivent pas être de pauvres réfugiés. Ou bien ils ont sacrément réussi, se dit-il. La Perle de Jade recevait sa clientèle dans une bâtisse bourgeoise de style 1900. Les visiteurs devaient monter quelques marches pour accéder à un perron qui donnait accès au hall d'entrée de l'établissement. Malgré l'horaire matinal, il était 8h30, une hôtesse en Ao Dai, le costume traditionnel des femmes vietnamiennes, l'accueillit. La jeune femme, aux cheveux noirs et longs, devait avoir 25 ans au maximum. Elle portait, avec grâce et féminité, le chemisier qui semblait cousu sur sa peau ambrée. La couture échancrée sur le côté laissait apparaître quelques centimètres dénudés. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Sagol appréciait la plastique de la demoiselle. Les mouvements amples du pantalon aéraient davantage sa démarche ondulante. Son oreille attentive percevait les bruits du froissement de la soie sur les cuisses de l'hôtesse. Le rêve s'arrêta là. À l'extrémité du hall, Pho Nguyen apparut et se dirigea de rechef vers lui. « Je vois que vous appréciez les yeux de biche. » Biche était le prénom de l'hôtesse, ce qui en vietnamien signifiait « couleur verte ».« Bonjour, monsieur Nguyen. Je vous dérange tôt, mais comme je vous l'ai dit au téléphone, j'ai besoin d'un renseignement urgent. » « Oui, je vous en prie, monsieur Sagol. Vous prendrez bien quelque chose, une soupe ou un thé au jasmin ou autre chose. Que désirez-vous ? Un thé sera le bienvenu. » Il l'emmena dans un salon situé au premier étage. Des dragons, des tigres et des personnages plutôt hostiles s'affichaient sur les murs. Les plafonds rabaissés par des tentures de couleur verte et bordeaux étaient éclairés par des lanternes en papier. Il avait vu les mêmes dans d'autres restaurants asiatiques. Là aussi, il y avait une standardisation du produit. Des paravents laqués, évoquant des paysages montagneux de l'Asie, cloisonnaient différentes parties du salon. Ils constituaient une décoration typique à ce genre d'établissement. Les deux hommes prirent place sur d'immenses fauteuils en bois noir. Sagol voulut déplacer son siège pour se rapprocher de la table basse. Il ne put le bouger d'un pouce. Le fauteuil pesait un poids respectable, ce qui fit sourire son hôte. « Ils sont très lourds. C'est du bois de chez nous. Ne me demandez pas le nom, je ne le sais pas. » Une jeune fille, en tout point semblable à Mademoiselle Biche, fit son apparition avec un plateau. Elle servit le thé et s'esquiva aussi vite qu'elle était arrivée. La discrétion est une vertu asiatique. Alors, monsieur Sagol, que puis-je pour vous? Je vous sollicite pour un tuyau à la fois simple et compliqué. Ma requête va vous paraître saugrenue, mais dans le cadre d'une enquête, je recherche quelqu'un capable de graver sur les grains de riz. Effectivement, ce n'est pas ordinaire ce que vous me demandez. Je sais, mais c'est dans votre communauté que je pourrai avoir les réponses à mes interrogations. Je ne suis pas en mesure de vous renseigner immédiatement, car cette technique n'est pas utilisée par les Vietnamiens. Je vais me renseigner auprès d'amis chinois. Je suis d'accord avec vous. Lorsque j'ai utilisé le mot « communauté », il s'agissait de l'interpréter au sens large. Je voulais dire les personnes originaires d'Asie du Sud-Est. Je vous promets de vous rappeler demain soir au plus tard. Bien entendu, monsieur Nguyen, je compte sur votre discrétion dans cette affaire. Vous me connaissez, monsieur Sagol. Nous, les jeunes, ne sommes pas bavards. Il avait apprécié le thé au jasmin et l'accueil. Il savait que son interlocuteur servait des intérêts mafieux. L'établissement n'était qu'une façade. L'avantage avec ces gens-là, c'est qu'ils ne font pas de bruit et que leurs problèmes sont toujours résolus par le clan. De plus, Sagol n'avait aucun dossier concernant cet homme, ni la perle de jade. Fo Nguyen était l'exemple type de celui qui souhaitait réussir dans l'existence. À 38 ans, il avait déjà vécu plusieurs vies. Il se confia à Sagol un jour où l'alcool de riz s'était invité à leur table plus que de coutume. Sa première vie se déroula au pays natal, à Natran. Son père prospérait dans l'immobilier. Les jours coulaient paisibles et heureux avec le golfe du Tonkin pour paysage. Mais c'est la guerre qui y mit fin. Dans un premier temps, les biens familiaux furent confisqués. La deuxième étape fut l'exécution de ses parents devant ses yeux horrifiés par une telle barbarie. Il en faisait souvent des cauchemars plus de 30 ans après. Il fut recueilli avec sa petite sœur par un oncle. Néanmoins, en 1975, il prit la mer sur un rafio de fortune avec 200 autres Danais. Un bateau français les récupéra 2 mois plus tard, affamés, décharnés et épuisés. Sa petite sœur, Cho, perle en vietnamien, n'avait pas survécu au calvaire. Sa deuxième vie se poursuivit plusieurs mois dans un camp en Thaïlande. Sa troisième commença lorsqu'il apprit que la France, avec d'autres pays, avait décidé de faire un effort pour accueillir des boat people. Ce pays n'était pas l'Eldorado tant espéré. Il atterrit chez un oncle éloigné qu'il exploita durant 8 longues années. Ce parent dirigeait un atelier clandestin dans le 13e arrondissement à Paris. Fo s'occupait de l'approvisionnement pour faire manger les travailleurs sur place. Cela permettait un gain de temps appréciable et limitait les allées et venues suspects. Au lycée, il rencontra une jeune Française et fuga avec elle. Entre-temps, son oncle tomba dans une souricière policière et écopa de plusieurs années d'emprisonnement. Fo se garda bien de réapparaître à Paris. Il travailla dans des bars et restaurants, l'été sur les plages et l'hiver dans les stations de sport d'hiver des Alpes ou des Pyrénées. Comme il était débrouillard, il rencontra des investisseurs chinois qui lui confièrent la gestion de la perle de jade. C'était ce qu'il appelait sa quatrième vie. Sagol resta moins d'une heure avec Fo. Il se rendait ensuite au Dragon Gourmand. La pendule moderne, à quartz, dans l'entrée du Dragon Gourmand, indiquait 9h40 lorsqu'il pénétra dans la salle de l'établissement. À cet instant de la journée, il n'y avait aucun client. Monsieur Li s'occupait des comptes derrière le comptoir. Dans un coin de la pièce, de l'encens brûlé. Une assiette de fruits disposée à côté des lumières rouges éclairaient l'autel des ancêtres. Monsieur Li semblait très attaché à ce culte. Chaque jour, il nettoyait et renouvelait l'assiette de victuailles. Il ne manquait pas de prier en allumant les bâtonnets d'encens. L'homme n'avait pas d'âge. Il passait le temps comme d'autres lisent ou rédigent des mots croisés. Petit et maigre, il posait toujours sur sa tête un couvre-chef. une tresse blanche dépassée de ce croisement entre un béret et une kippa. Il ne dénudait jamais son crâne. Trois poils ornaient son menton. Il portait une chemise ample à col mao. Il était l'archétype du petit commerçant chinois. La seule différence notable résidait dans la possession de quatre restaurants identiques dans la région. Innovateur, il faisait de la restauration rapide avec des mets chinois accommodés au palais français. Il possédait le sens des affaires. Son entreprise prospérait et il avait mis chacun de ses quatre fils à la tête d'un restaurant et se contentait de superviser le tout. Lorsqu'il vit sa gaule, il effectua un nombre incalculable de courbettes. Le gendarme détestait cette mise en scène. Il fallait bien en passer par là. Comme le lui avait dit Gilles, l'Asiatique est susceptible. Il convenait donc de ne pas trop montrer son impatience. Il cessa lorsque son visiteur le remercia pour la troisième fois. Il se tint droit, les mains jointes, et attendit que celui-ci prenne la parole. « Bonjour, monsieur Li. Comment vont les affaires ?»« Je viens de connaître le bonheur. Les ancêtres ont béni l'arrivée de mon petit-fils. L'année est fertile. Et la santé ?» Ce sont les astres qui décident de nos vies. Je creuse le sillon un peu plus chaque jour. Et vous, monsieur Sagol, quel esprit vous habite? Je cherche quelqu'un, mais je suis seul avec les ancêtres ce matin. Je comprends, vos ancêtres doivent être heureux de voir la réussite de vos affaires. J'ai besoin de votre expérience. Pouvez-vous m'aider? Il avait choisi le bon angle d'attaque. Glorifier les ancêtres apportait de la considération à celui qui proférait des mots chaleureux devant l'autel. Sagol, bien que n'ayant aucune connaissance dans le domaine, comprit vite que le roublard Li serait retors et qu'il faudrait faire preuve d'humilité et de patience. « La tradition vous oblige à boire un verre avec moi. C'est d'accord, juste un petit verre. De la grosseur du verre dépend la grandeur de l'hospitalité, monsieur Sagol. Je suis votre serviteur. » Il but le verre d'alcool de riz que lui tendit son interlocuteur. Maintenant, il pouvait poser des questions. « Avez-vous des grains de riz gravés chez vous, monsieur Li ?»« Non. Dans ma province, cela ne se pratique pas. J'ai connu dans ma jeunesse un graveur sur ivoire. Que cherchez-vous dans les grains de riz ?»« Je recherche quelqu'un qui pourrait les graver dans la région. »« Je ne connais personne ici, monsieur Sagol. Vous faites fausse route. » Pourtant. Je vais vous montrer une photo. Dites-moi si je me trompe. » Il montra une photo qui représentait l'agrandissement d'un grain. On pouvait lire sur une face le mot parfum, et sur l'autre face, un rat était gravé. Le Chinois examina longuement le document. Il ne disait rien. Il positionna la feuille dans tous les sens. Au bout de trois longues minutes, il déclara qu'il ne connaissait personne capable de faire ce travail. La perplexité gagnait l'enquêteur. Qui avait gravé les grains? Monsieur Li promit de se renseigner auprès de ses relations. Sagol le remercia longuement en le félicitant pour la naissance de son petit-fils. Son hôte le raccompagna jusqu'à la porte. Dès qu'il eut tourné les talons, l'homme décrocha le téléphone et conversa en mandarin. Il battit le rappel des troupes pour obtenir leurs renseignements. Monsieur Li était persuadé que la gravure des grains de riz n'avait pas été effectuée dans la région. Installé depuis plus de 30 ans, il connaissait bien la communauté chinoise et ce type d'activité ne lui aurait pas échappé. L'activité de Léo, au gourmet mandarin, lui rappela la soirée d'anniversaire de mariage avec Juliette. Il était 11 heures et c'est Madame Van Leok qui le réceptionna. Mylène était une Eurasienne. Grande et mince, elle avait épousé en seconde noces Thuyen Van Luok, propriétaire des lieux. Elle se dirigea vers Sagol, qu'elle connaissait bien. « Bonjour, monsieur Sagol. Quel bon vent vous amène ?»« Bonjour, Mylène. Comment allez-vous »« Très bien, merci. Et votre épouse ?»« Elle va très bien, et je pense que nous viendrons dîner un soir avant de vous quitter. »« Vous partez de la région ?»« Oui. » J'ai reçu une nouvelle affectation en région parisienne. Nous garderons un excellent souvenir de vous, soyez-en assurés. Je vous remercie, Mylène. J'aimerais voir votre mari, s'il est ici. Je vais l'appeler. En attendant, désirez-vous une boisson ? Non, merci. J'ai déjà pris quelque chose il y a peu de temps. De sa démarche chaloupée, elle se dirigea vers la cuisine. Quelques secondes s'écoulèrent. Thuyen Van Luok apparut, traversant le rideau de perles de bois, séparant la cuisine de la salle de restaurant. Il possédait un tic qui plaisait beaucoup à Sagol. Il riait tout le temps. Le sourire était sa marque de fabrique. Affable, il privilégiait toujours la recherche de la satisfaction du client. En quelques années, il fit de son établissement un endroit où l'on prenait plaisir à se retrouver en amoureux ou entre amis autour d'un bon plat, dans une ambiance discrète et chaleureuse. Contrairement à ses compatriotes, qui réalisaient 1000 courbettes en guise de salut, Thuyen Van Luok vint rapidement lui serrer la main. « Quelle surprise, monsieur Sagol! C'est gentil de penser à nous. »« Merci, Thuyen. Aujourd'hui, je viens vous voir pour le travail. » »« Oui, vous avez le costume. »« C'est vrai. Je voudrais un renseignement concernant la communauté asiatique. » Si je peux, ce sera avec plaisir. Je cherche un graveur sur grain de riz. Il faut aller sur Paris, et je ne suis pas sûr que vous trouviez. Je cherche quelqu'un de la région. Je ne pense pas qu'il y ait un Chinois ou un Vietnamien qui travaille les grains de riz ici. Vous savez, les Chinois s'installent où il y a du commerce à faire. Pour ce genre d'activité, il faut un afflux touristique, avec un attrait pour l'originalité du produit. J'ai bien compris. Il se trouve que nous avons découvert des grains gravés ici. Il nous faut donc identifier l'auteur de la gravure. S'il n'est pas dans le coin, il a probablement séjourné ici, et j'ai besoin de votre aide. Monsieur Sagol, je vais me renseigner et tout faire pour obtenir l'information, mais je suis sceptique quant au résultat. Merci beaucoup. Rappelez-moi rapidement. Ce soir, je vous promets de m'en occuper après le service de midi. Alors, à ce soir. Au revoir, monsieur Sagol, et mes amitiés à madame. Il rentra manger aux messes de la gendarmerie. La déception se lisait sur son visage. L'enquête piétinait lamentablement et le sablier égrenait le temps inexorablement. D'ici 2 semaines, le dossier échouerait dans d'autres mains, pendant que Sagol et Gilles vogueraient vers d'autres aventures.